Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers amis. Juste trois mots pour dire merci à la librairie Mola qui nous accueille toujours amicalement, cordialement. Et merci beaucoup, bien sûr, à Anne Weber qui a bien voulu accepter notre invitation. Merci à Julia Isken qui va s'entretenir avec Anne Weber avant peut-être une discussion plus générale avec le public. Et j'avais envie de, en forme de prélude ou d'ouverture, je ne sais pas, lire quelques lignes que Le Monde a publiées il n'y a pas très longtemps, quelques lignes de Anne Weber dans Le Monde. Je cite juste très, très brièvement un texte qui m'a beaucoup plu. Vivant en France depuis bien avant l'instauration des classes bilingues, je sais que depuis toujours, l'allemand donne un avantage aux collégiens qui en font le choix et qui sont considérés comme de meilleurs élèves que leurs camarades ayant choisi l'espagnol. Ma pauvre langue, l'allemand, mon cher allemand, l'ascension sociale, de meilleures chances dans la vie, l'espoir d'intégrer un jour une grande école, c'est donc tout ce qu'on a trouvé pour te faire aimer. Ni ta beauté, ni celle des écrits de Goethe, de Hölderlin ou de Kafka, ni même la bonne entente entre les peuples n'entre pour quoi que ce soit, semble-t-il, dans le choix de l'allemand à l'école. Écolier, écoutez-moi. Il y a autre chose dans les langues que ce qu'on vous raconte. Quelque chose à aimer. Même et surtout dans l'allemand, qui a pu être parlé et écrit d'une façon si haïssable.
Merci, Gertrud de Blaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais citer Le Monde aussi, bien que, du coup, j'ai changé, peut-être je citerai le magazine littéraire. Ça. Alors là, j'ai lu « Un miracle littéraire se produit ». Un livre vous tombe entre les mains et c'est le bon, encensé par la critique unanime. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir une auteure et traductrice littéraire que vous connaissez sans doute à travers son œuvre récompensée à maintes reprises, autant pour ses traductions que pour ses écrits. Donc, bienvenue, Anne Weber.
Merci.
Vous écrivez toujours deux versions de vos livres, une version française et une allemande. Donc, qu'il s'agisse de Cerbère en 2003, Chers oiseaux en 2006 ou Vallée des merveilles en 2012, pour n'en citer que quelques-uns. Vous êtes d'origine allemande, née à Offenbach. Et je me suis posé la question, l'allemand, puisqu'il y avait aussi donc, cette introduction, l'allemand, le considérez-vous toujours comme votre langue maternelle, en fait ? Vous vivez en France depuis vos 17 ans.
Comme si vous me demandiez, est-ce que vous considérez toujours que vous êtes née en Allemagne ? Mm-hmm. Oui, l'allemand sera toujours ma langue maternelle. Et je compare parfois mon rapport au français et à l'allemand comme, enfin, l'allemand étant comme ma peau et le français serait comme un vêtement, comme un manteau que je peux enlever, enfin, qui, si je vivais pendant quelques semaines ou quelques mois, si je retournais en Allemagne, ça tomberait, ça me quitterait, alors que l'allemand est beaucoup plus profondément ancré, comme une langue maternelle l'est.
Vous êtes très à l'aise dans les deux, c'est ça qu'il y a un moment où peut-être le fait de vivre dans un autre pays, ça...
Ben, depuis longtemps ça, aussi, oui. Ça fait...
Donc, ce soir, nous avons parlé de votre dernier livre, intitulé « Vaterland », paru aux éditions Seuil. Le livre allemand s'intitule « Ancêtres, Ahnen ». Et le titre français, du coup, « Vaterland », ce mot signifie dans votre langue maternelle « pays des pères ». Vous ajoutez donc à travers ce titre de la version française une notion géographique. C'est un peu là aussi, je trouve, qu'on voit votre rapport à la langue maternelle et le pays des pères.
Mais c'est intéressant, je trouve, cette histoire de cette question de titre pour ce livre-là, parce que j'ai d'abord écrit la version allemande, comme je le fais maintenant, toujours. Et le livre s'appelait donc Ahnen, qui veut dire à la fois, vous l'avez dit, ancêtre ou aïeux, mais ça a aussi une autre signification. C'est un verbe qui signifie deviner. Or, ce double sens, il n'y avait pas d'équivalent pour ce double sens en français. J'ai donc dû chercher un autre titre en français. J'ai longtemps cherché. Mon éditeur au Seuil voulait qu'on comprenne tout de suite qu'il s'agit là d'histoire allemande, de passé allemand. Mais je ne voulais pas du mot allemand dans le titre. On m'a proposé une histoire allemande, un héritage allemand, des titres comme ça que je trouvais assez plat et un peu ne convenant pas. Et puis m'est venue l'idée de donner au livre un titre allemand, enfin de prendre un mot allemand, mais qui puisse s'entendre quand même en français, qui puisse surtout se prononcer aussi. Et ce Vaterland en français, sur une jaquette de livre français, c'est devenu pour moi comme un autre mot, comme un autre. Parce que jamais je n'aurais appelé le livre allemand Vaterland, qui veut dire en effet littéralement pays des pères, mais surtout dans la bonne traduction serait plutôt patrie. Et je n'aurais pas appelé un livre patrie. Vaterland, c'est un mot qui en allemand a plus ou moins disparu du vocabulaire depuis la guerre. On ne parle plus de Vaterland. Mais le fait de le mettre sur un livre français, c'était un peu comme si je le mettais entre guillemets. Vous voyez, ça établissait une distance par rapport à ce mot et à ce qu'il signifie, et qu'il y a quelque chose aussi de ma propre distance par rapport à ce pays et par rapport à cette notion.
D'autant plus que, bon, pour la version française, on a mis récit. La version allemande s'appelle Reise Tagebuch, un voyage...
Zeitreise.
Là, on a aussi en fait cette notion du voyage au pays de vos pères, plus précisément au pays de votre arrière-grand-père, le philosophe Lorenz Christian Rank. Il naît en 1864, un siècle avant vous. Votre voyage n'est donc pas qu'un déplacement dans l'espace, il est aussi un voyage dans le temps. Et vous dites... Le passé s'étend devant nous comme un étrange et lointain territoire. Donc, à travers ce récit, il s'agit de traverser la broussaille du temps, comme vous le dites, pour arriver à la Prusse d'avant la Première Guerre mondiale et jusque dans un village en Pologne où votre arrière-grand-père, cet ami de Walter Benjamin et Martin Buber, fut pasteur quelques années durant. Et à la partie du trajet qui s'étire entre sa mort en 1924... et votre naissance en 1964. C'est ce chemin qui est à la fois ce qui vous lie et vous sépare. Et sur ce chemin, vers cet homme passionné et tourmenté que vous surnommez Zanderling, Picasso, ne cesse de se dresser un gigantesque obstacle. C'est la suite de l'histoire allemande et familiale. Et cet obstacle est si important dans votre recherche de votre arrière-grand-père que... Il devient même le point de départ de votre récit de voyage d'exploration. Donc, peut-être qu'on peut voir peut-être le début.
Ce que vous avez dit à propos du sous-titre ou du genre tel qu'il est donné pour l'édition allemande, Zeitreise Tagebuch, ça veut dire en effet journal d'un voyage dans le temps. Et parce que ce livre, bon, malheureusement, ça a sauté en France. On a préféré le genre plus simple de récit. Mais le livre part en réalité de la question qui en détermine la forme ensuite, de savoir comment aborder un être qui est perdu dans le passé, mon arrière-grand-père. Et je me suis rendu compte assez vite que je ne pourrais pas évoquer cette époque lointaine quelque chose de totalement séparé de moi, comme une chose close, comme une sorte de capsule fermée, mais que je ne pourrais pas raconter, dire comment c'était cette époque-là, comment était cet homme, mais que je pourrais seulement raconter mon voyage vers cet homme, mon approche de ce personnage. Et donc ça donne une image du passé qui n'est pas figée, mais qui est en mouvement. Et il y a des tas de choses qui entrent dans ce récit, parce que quand je me mets en route, il y a plein de choses qui se mettent à entrer en résonance, à entrer dans le récit. Des conversations que j'ai avec des amis juifs, polonais, avec des déplacements, des séjours en Pologne, en Allemagne, aux archives, etc. Et tout ça est raconté, si bien que c'est non seulement un portrait d'un homme qui apparaît petit à petit, mais c'est aussi, j'ai voulu rendre sensible, et j'espère y avoir réussi, toute l'épaisseur du temps à traverser. Ce n'est pas comme dans un roman historique, par exemple, où, comme si on appuyait sur un bouton, tout à coup, on se retrouve au 19e siècle ou au 18e siècle, et on suit des événements qui ont eu lieu, comme si on y était. Moi, ce n'est pas du tout ça. C'est ce but à ne... N'est jamais, le but du voyage n'est jamais atteint, parce qu'on ne peut pas, à mon sens, l'atteindre. On peut seulement, de toutes ses forces, essayer de s'en approcher. Et bon, c'est peut-être... Il ne faut pas que j'en parle trop longtemps, je pourrais en parler encore, mais ce qui est très beau... bon, il ne faudrait pas dire ça de ses propres livres, parler comme ça. Mais ce que... Comme... idée, je trouve très beau le retournement qui s'opère, c'est-à-dire que quand on entreprend un voyage, mais ce passé vers lequel on se déplace, tout à coup, il se trouve devant vous, il ne se trouve plus derrière. Et ça coïncide avec quelque chose que j'ai lu chez un contemporain de mon arrière-grand-père, qui était un anarchiste, et qui s'appelle Gustav Landauer, et qui a écrit qu'il y a deux passés. Il y a le passé figé, tel qu'il s'est passé, tel que les choses ont eu lieu, et qui, lui, est inaccessible, il est fermé. Déjà 5 minutes après, on n'y est plus, on n'y a plus accès. On n'a plus que le souvenir de ce qui s'est passé, et puis quand ça date d'il y a 100 ans, on n'a plus que des documents, etc. Et puis, il y a un autre passé qui, lui, est le passé qui se trouve devant nous quand on se met à essayer de s'en approcher. Et c'est toute cette idée du passé que j'ai essayé de... C'est ce deuxième passé que j'ai essayé de mettre en forme, en quelque sorte, dans ce livre. Mais évidemment, je continue. Comme c'est un voyage, c'est une traversée aussi des temps intermédiaires, comme vous avez dit. Il y a aussi le temps entre la mort de cet arrière-grand-père en 1924 et ma naissance à moi en 64, qui est évoqué et qui s'interpose tout le temps, parce que je ne peux pas faire comme si je ne savais pas ce qui s'est passé après.
Puis il y a aussi, quand on parle de peut-être, journal de voyage, dans le temps, il y a la notion du temps, la notion aussi géographique, donc du lieu, des lieux. Et puis, il y a aussi la forme du journal, le journal intime, le carnet de voyage, ce qui indique déjà au lecteur que vos recherches ne sont pas celles d'une chercheuse ou chercheur en sciences humaines, mais plutôt celles d'un être humain qui cherche un autre être humain aussi, qui surgit entre les lignes. C'est...
Oui, mais ce n'est pas un... Je l'ai appelé journal d'un voyage dans le temps, mais ce n'est pas un journal au sens habituel du terme. avec des entrées, des dates. Et des... C'est un récit continu. D'ailleurs, il n'y a même pas de chapitre, ça se suit. C'est simplement, je l'ai appelé, c'est une sorte d'image, le journal, parce que les choses sont évoquées dans le, à mesure qu'elles arrivent, mes découvertes, à mesure que je tombe sur des choses, que je déchiffre des manuscrits, que je rencontre des gens, tout ça est évoqué au rythme de mes découvertes. C'est dans ce sens-là que c'est un journal. Mais j'en fais un récit, en réalité.
Donc on pourra peut-être parler justement de la, du début de votre récit de voyage, d'exploration, puisque les choses, les lieux, les rencontres viennent vers vous. Il n'y a pas de chapitre, donc c'est vraiment une écriture qui est... ça presque quelque chose d'obsessionnel, il y a quelque chose de très, très, très fort hein, de suivre ce, ce mouvement. Mais, puis, mais il y a quand même ce, ce point de départ et comme je disais tout à l'heure, c'est la suite de l'histoire allemande et familiale qui va être le point de départ. Tout commence par votre mot de passe pour l'accès à l'espace des chercheurs à la Bibliothèque nationale. C'est un mot de passe qu'il est impossible de changer, qui vous colle à la peau un peu.
Alors là, on pourrait peut-être, peut-être lire le passage,
oui.
Non
ou... Ce serait, oui, ce serait peut-être intéressant.
Parce que plutôt que je vous le raconte...
Exactement.
Comme ça. Parce que, en effet, le livre ne commence pas d'emblée avec cet arrière-grand-père, ni avec mon grand-père, ni avec mon père. Tous les trois vont apparaître au cours du livre, mais ce livre, c'est aussi, et en particulier là, au début, ça évoque la façon dont le passé ne cesse de se prolonger dans le présent. La façon dont il est, dont il est présent, dont il hante le présent, dont on ne peut pas s'en débarrasser dans le présent. Dans des choses tout à fait anodines ou quotidiennes, il a tendance à surgir. Donc, le début. Ça commence par mon mot de passe qui est Panzerdivision. Je l'ai pris il y a pas mal d'années, la première fois que j'ai demandé une carte d'accès au rez-de-jardin réservée aux chercheurs de la Bibliothèque nationale. Pour y retenir une place et commander des livres, il faut un pseudonyme. Évidemment, j'aurais pu choisir velours ou capucine. J'avais choisi Panzerdivision. C'était le petit nom que m'avait donné jadis un Français, au charme indéniable, et qui plus est imbattable dans un art tout à fait raffiné, bien qu'ayant pas mal baissé dans mon estime depuis, l'ironie. Ce petit nom, que m'avait valu non seulement mes origines, mais aussi certaines qualités qui m'étaient propres, et le sont certainement encore, m'avait alors semblé drôle. Dans le cadre des recherches que je m'apprête à faire à l'aide de ce mot de passe, il ne sonne plus si drôle que ça. Il s'agira d'un Allemand qui a passé une quinzaine d'années en Pologne, de mon arrière-grand-père. Pour le dire tout de suite, mon arrière-grand-père n'a pas envahi la Pologne. La région de Poznań, où il a vécu, avait déjà été rattachée à la Prusse en 1815. Mais quand même, j'aimerais changer de pseudonyme. C'est impossible. Une fois choisi, un mot de passe, dit alias, vous reste éternellement accolé, m'explique la dame plutôt grincheuse en charge de la distribution des cartes. Panzerdivision. Il en va de ce nom comme du passé lui-même, auquel on n'échappe pas, comme chacun sait. Et en effet, on peut toujours partir dans un pays lointain, ou voisin, apprendre à parler et à écrire la langue locale jusqu'à être pris parfois du moins pour un autochtone. On peut toujours s'imaginer qu'on va pouvoir se fondre dans la foule, mais où qu'on aille, et quel que soit le nombre d'années qu'on passe à l'étranger, tout le monde a déjà lu votre avis de recherche et, tantôt riant, tantôt vituperant, vous lance à la figure « Panzerdivision ». Le mot de passe sera donc conservé, et en fin de compte, je ne peux pas exclure non plus que l'occupant allemand n'envahisse à un moment les pages de ce livre. Je commencerai par donner une sorte de nom ou de mot de passe à celui qui en sera l'objet ou le point de départ, car je ne veux ni écrire toujours « mon arrière-grand-père » comme si cela avait été son rôle le plus important dans la vie, ni son vrai nom en entier, Florence Christian Rang, qui est bien long, ni ses seuls prénoms, Florence Christian, comme je l'ai toujours entendu appeler dans ma famille paternelle, qui peut se prévaloir d'une longue relation intime avec cet ancêtre, ni encore moins notre héros, ce qui ne me plaît ni au sens narquois, ni au sens propre. FCR, comme JFK, serait bien concis et pratique, mais ferait un peu trop penser à un club de football à mon goût. Alors, quel pseudonyme choisirais-je si je devais demander pour lui aujourd'hui une carte annuelle à la Bibliothèque nationale? Beaucoup de mots lui conviendraient. Le chercheur, justement. Le fou, l'impétueux, l'instable, l'intransigeant. Mais j'aimerais plutôt lui trouver un nom. Je choisis, en pensant au Bécasso que j'ai souvent vu courir au bord de l'eau, avançant et reculant au gré du ressac, Zanderling. Peut-être jusqu'ici. Parce que c'est un homme qui... J'ai pensé à cet oiseau qui avance. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les côtes françaises, on le voit beaucoup. C'est un oiseau qui avance au gré de la marée, qui recule quand la vague afflue et qui... Souvent, ils sont plusieurs. Enfin, c'est un homme qui a suivi les mouvements de son temps. Mais il y a un moment donné, après, mais on va évoquer ce personnage, mais après la Première Guerre, où ce nom de Sanderling, finalement, ne lui convient plus, je trouve, parce qu'il s'en écarte des mouvements de son temps. Il n'est plus dans la... Dans la tendance générale.
C'est comme vous imaginez le temps qui vous sépare comme un chemin. Le chemin est long, hein, de toute façon, de Panza Division à Florence Christian Rang, à qui vous attribuez le nom de ce mot de passe, Zanderling. Vous dites que c'est le chemin pavé de mots sur lequel ce livre avancera et reculera. Donc là, on retrouve un peu ce mouvement. Quand il ne sera pas en train de prendre des chemins de traverse. Et ça aussi, je trouve ça intéressant, ça nous renvoie à la question de la fiabilité des mots, aussi de leur signification à travers le temps. La question, si nous comprenons aussi à travers le temps leur signification de la même façon, ce qui est très très fort dans ce livre, c'est bien sûr ce mot, peut-être qu'on pourrait appeler la germanitude, das Deutschtum. Comment se passe-t-il en fait quand on est écrivain et qu'on a l'impression que même les mots eux aussi s'éloignent, sont en mouvement en quelque sorte?
Mais c'est-à-dire qu'en allemand c'est très particulier parce que dans toutes les langues, le sens des mots évolue. Mais en allemand, il y a quelque chose de plus ou de différent qui est que les mots ont été souillés, pervertis, enfin, certains mots. Mais pas seulement les mots très marqués qui aujourd'hui ont disparu du vocabulaire, comme, ou même un mot comme Vaterland, c'est un mot qui a existé bien avant et qui existe encore, même s'il n'est pas très utilisé. Mais il y a des mots très simples, par exemple, j'en parle pas dans le livre, mais le mot H, cendre, il me semble qu'on ne peut pas l'utiliser en allemand comme en français. C'est dans un poème. Vous ne pouvez plus mettre le mot cendre sans penser à ces cendres-là.
Ce qui amène à la question.
Et puis, il y a les mots qu'on ne peut plus utiliser innocemment, si vous voulez, mais il y a aussi les mots qu'on doit utiliser parce qu'on a besoin d'eux. Et leur prononciation. Il y a la façon dont les mots sont prononcées. Et il y a plusieurs fois des passages dans le livre où j'essaie d'évoquer ça, cette difficulté à prononcer certains mots. Par exemple, le mot « juif », je n'ai aucun mal à le prononcer en français. Je peux dire « juif » sans problème. Et j'ai du mal à prononcer le même mot en allemand. Je peux le prononcer, mais il y a quelque chose qui fait que c'est difficile et que j'explique. J'essaie d'aller au fond de ce malaise dans le livre. Et oui, mais c'est quelque chose qui a un rapport avec la mémoire collective, mais ce n'est pas la mémoire collective. Moi, j'appelle ça une sorte d'intimité collective, si un tel paradoxe peut exister, c'est-à-dire c'est les effets du passé, de cette mémoire collective, sur l'intimité de chacun. Parce que c'est quelque chose... Maintenant, j'ai des lettres de lecteurs qui me viennent d'Allemagne et de France, mais celles qui me viennent d'Allemagne souvent me disent, les lecteurs et les lectrices me disent... Ça, je l'ai ressenti aussi de façon tout à fait semblable. En particulier sur cette façon de prononcer, sur cette difficulté de prononcer les mots. Mais ce n'est pas quelque chose dont on parle. Parce que c'est vraiment quelque chose de très intime en même temps et de collectif et d'historique. C'est très, très étrange.
Je ne sais pas si on aura peut-être le temps aussi pour vous...
Peut-être lire ce passage à propos d'un mot que tout le monde connaît. Oui, le passage qui précède, c'est à propos d'un autre mot que tout le monde connaît aussi, et pour cause, c'est le mot « Bosch ». Mais bon, ce passage-là, je le saute. Mais la station Bosch ne se trouve pas très loin d'une autre où je m'arrêterai avant de me tourner vers Sonderling. Ce mot qui s'impose à moi, il ne l'a peut-être jamais entendu. Il ne lui évoquait rien. À son époque, il n'avait aucune signification particulière. C'est un mot que j'ai déjà entendu et lu des centaines, non, des milliers de fois, mais que je n'ai presque jamais prononcé. Et je ne le prononcerai pas non plus aujourd'hui, je l'écrirai. Ce n'est pas le seul mot qui crée un vide autour de lui. Ce n'est pas le seul, loin de là, qui a du mal à passer mes lèvres. Mais là, quand je dis qu'il ne veut pas passer mes lèvres, ce n'est pas une façon de parler, mais une injonction. Le mot ne veut pas être prononcé par moi. Je ne sais pas s'il veut être prononcé par qui que ce soit d'ailleurs, et si oui, comment et par qui. C'est le nom d'un lieu en Pologne. Tout le monde aura compris lequel. Il y a quelque temps, j'ai entendu à la radio française une émission au cours de laquelle ce mot a été prononcé. Non que cela soit rare, au contraire, je le répète, c'est un mot qu'on entend très fréquemment. J'en conclus que d'autres ne ressentent pas le même malaise que moi. Dans l'émission en question, c'était l'animatrice qui l'avait dit en passant. Comme tous les Français, elle avait prononcé le « ao » comme un « o ». Et comme je l'ai également entendu parfois et non sans surprise dans des bouches françaises, elle avait repoussé le « ch » à la fin, si bien que le mot qu'elle prononçait pourrait se transcrire ainsi « Auschwitz ». D'ailleurs, si je me souviens bien, il n'était pas du tout question dans cette émission de ce à quoi ce mot est désormais lié, mais de poésie. Et le mot n'apparaissait qu'en tant qu'élément de la question devenue une formule toute faite « Peut-on encore écrire de la poésie après Auschwitz ?» Mais il est possible que ma mémoire me trompe. Elle ne me trompe pas en ce qui concerne la suite de l'émission. Il y a des mois qu'elle a été diffusée et je n'ai cessé depuis d'y réfléchir. Parmi les invités, il y avait une juive française. C'est elle qui a parlé en premier, une fois que le mot était dit. D'une voix dont l'agressivité m'a frappée, elle a demandé à l'animatrice, mais sa voix en faisait moins une demande qu'une remontrance et même un ordre, de ne plus jamais prononcer ce mot comme elle venait de le faire. Puis, excédée, elle l'a prononcé comme il était d'usage de le faire en France. La prononciation qu'elle avait blâmée et qualifiée de fausse semblait traduire à ses yeux une négligence illicite et un manque de déférence à l'égard du nom et de ce qu'il représente. Cela, elle ne l'a pas dit, mais on pouvait l'entendre dans l'affection de sa voix, qui indiquait un agacement extrême, une hostilité. L'animatrice s'est excusée, puis elle a repris son discours avec une impassibilité réelle ou apparente. Tandis que j'essaie maintenant d'aller au fond de ce qui me traversait l'esprit à ce moment-là, je sens, d'une part, à quel point je dois être prudente dans le choix de mes mots, et je suis consciente, d'autre part, il était déjà à l'époque, de ma perception ambiguë de cet incident. Il me semble que dans cette minuscule scène, qui n'a pas duré plus de quelques secondes, se reflète toute la difficulté et la complexité de la relation entre juifs et non-juifs depuis cela. Je pouvais comprendre que la femme prenne un ton plus que sec. Il était évident qu'elle ne supportait pas une prononciation qu'elle ressentait comme fausse et négligente. En même temps, quelque chose en moi se révoltait contre ce blâme. Bien que je ne prononce pour ainsi dire jamais le mot en question, il me semblait que la réprimande m'était adressée personnellement. J'avais le vague sentiment qu'en tant que non-juive, et a fortiori en tant qu'allemande, je ne pouvais pas prononcer ce mot correctement, même en faisant tous les efforts du monde. Est-ce une des raisons pour lesquelles j'évite de le prononcer ? Plus tard, je réfléchis à ce que les termes « faux » ou « juste » peuvent bien signifier, s'agissant de prononciation. Ce qui paraissait juste à la juive française dans l'émission de radio était, comme elle devait le savoir mieux que personne, la prononciation française de la forme allemande d'un nom de lieu polonais, Oświęcim. Considéré aussi froidement, l'agacement provoqué par une prononciation perçue comme impropre et intolérable ne paraît pas justifié. Or, sa réaction était bien sûr inspirée non par la froide raison, mais par des sentiments divers et flous que le mot en question et tout ce qu'il enferme suffisent largement à justifier. C'est une réaction à laquelle nous, les non-juifs, et en particulier les non-juifs allemands, devons toujours nous attendre et à laquelle nous n'avons rien à opposer. Il nous est interdit d'y répondre à notre tour par les sentiments, il nous est interdit encore davantage d'y répondre de manière neutre et détachée. Mon intention n'est pourtant pas de me lamenter, ni encore moins de nous présenter comme des personnes à plaindre, mais juste de m'approcher au moins une fois dans ma vie de cette plaie à vif que j'ai toujours cherché à ignorer jusqu'ici. Quelle serait donc la prononciation juste du mot ? S'il en existe une, c'est probablement la prononciation polonaise, sans accent si possible. En dehors des Polonais eux-mêmes, il doit y avoir assez peu de monde pour avoir une idée de ce que cela devait donner. Je découvre qu'on n'a pas besoin de connaître un Polonais à qui poser la question, mais qu'on peut facilement trouver la réponse sur Internet. Il suffit d'entrer le mot ainsi que le terme « prononciation » par exemple. Sur mon écran apparaît une grande fenêtre noire. Peut-être la même fenêtre noire, comme s'ouvrant sur une nuit sans lune, serait-elle apparue si j'avais voulu connaître la prononciation des mots « kreślo »,« chaise » ou « dziękujem »,« merci ». Je n'ai pas essayé. Je sais juste à quoi ressemblent d'ordinaire les fenêtres qui s'ouvrent dans le monde digital. Elles sont encombrées, il n'y a pas un seul endroit qui reste vierge, sans images ni inscriptions. Et la plupart du temps, ces images et parfois ces inscriptions sont en mouvement. Or, la fenêtre dont je parle est immobile et d'un noir uniforme. Au centre se trouve une fine bande grise portant à gauche une flèche et à droite les chiffres 001 et un symbole de haut-parleur. Je clique sur la flèche et entends une voix d'homme prononcer le mot en polonais. Ce n'est pas une voix d'automate monocorde, comme je m'y attendais, mais une voix d'homme chaude et grave. J'écoute le mot encore et encore, d'abord doucement, puis un peu plus fort. Ce que j'entends pourrait se transcrire phonétiquement, à peu près comme ceci. Oświęcim. Pourquoi donc ce long passage à propos de ce mot et de sa prononciation ? Au début d'un livre censé évoquer mon arrière-grand-père, mort en 1924. J'imagine le temps qui nous sépare comme un chemin. Nous sommes deux marcheurs qui empruntent différents tronçons de la même route sans jamais se rencontrer. La partie du trajet qui s'étire entre sa mort et ma naissance, et qu'aucun de nous ne foulera jamais, est à la fois ce qui nous lie et nous sépare. Si, muni de quelques connaissances touchant les circonstances de cette vie particulière, et plus généralement de son époque et de quelques-uns des mouvements de pensée et des positionnements que l'on pouvait y rencontrer, je m'apprête maintenant à parcourir ce long chemin qui mène vers mon ancêtre. Je ne peux pas sauter, me semble-t-il, ce chaînon séparateur et faire comme si je n'étais pas l'arrière-petite-fille, mais la fille de cet homme.
Je pense qu'on le voit un peu peut-être aussi dans les... Quand je vois les réactions du public, les regards, on sent que vous pénétrez là dans une, ce que vous appelez intimité collective. Et cette, ça renvoie aussi à la question sur laquelle vous revenez tout au long de ce livre. Être allemand, être né allemand, qu'est-ce que cela signifiait il y a un siècle ? Et qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui ? Pourquoi entreprenez-vous ce voyage vers votre arrière-grand-père et ce maintenant ?
Alors, être allemand, oui, c'est en effet la question qui est en arrière-fond du début à la fin de ce livre. Être allemand, qu'est-ce que ça signifie ? Et je crois que, enfin, j'en suis venue à penser que ça voulait dire, en tout cas, ça peut vouloir dire des tas de choses, mais entre autres, immuablement, si vous voulez, ça veut sans doute dire venir au monde avec ce fardeau-là. Moi, je ne parle pas de culpabilité parce qu'il me semble qu'on peut être coupable ou fier d'ailleurs que de ce qu'on a fait. Mais il y a cette chose que mon amie Cécile Weisbrot, qui apparaît d'ailleurs aussi dans le livre, parce que je parle de mon projet avec elle, appelle le péché originel laïque. C'est le péché originel allemand avec lequel nous venons au monde maintenant. Et alors, être allemand, parmi autre chose, mais ça signifie sans doute regarder cette plaie ouverte et s'y confronter et garder les yeux ouverts sur ça, avoir ce... Oui, c'est une chose que tout le monde ressent, je crois. Je crois même les gens qui... Il y a en Allemagne des gens qui rejettent très violemment leur identité allemande. Il y a un peu un syndrome qui touche surtout les femmes qui s'inventent une identité juive, par exemple, qui font des études hébraïques et qui font des études en Israël, qui changent de nom. Il y a des gens qui vont très loin dans ce déni. Et il y a les profanateurs de tombeaux. Mais ça, c'est un peu le grand écart, là, les deux extrêmes. Mais je crois que tous ces gens-là, leur comportement est régi par ce sentiment de péché originel laïque ou par ce sentiment par ce poids du passé qu'ils ressentent.
Le fait de vous entendre parler de péché originel laïque, ça nous approche peut-être un petit peu aussi de la vie, de l'histoire de votre arrière-grand-père qui était philosophe, mais pasteur aussi. Et son rapport à Dieu aussi, ses règlements de compte avec Dieu, la religion protestante, avec son amour salvateur, la bonté, la douceur, la sollicitude. Puis le côté impitoyable aussi, la dureté vis-à-vis de soi-même, le rapport aussi entre les religions chrétiennes et juives. Et ça nous fait découvrir aussi un petit peu une... Je ne sais pas si on peut parler d'époque ou quelque chose qu'on trouve au début du siècle à travers cet individu sans sérieux, parfois jusqu'à la folie, son côté passionné, sa solitude aussi.
Oui, il faut peut-être en effet dire quelques mots de ce personnage qui est au centre du livre, même s'il y a aussi plein d'autres choses qui apparaissent, mais c'est donc un homme né en 1864 qui, par tradition familiale, est d'abord devenu, a fait des études de droit et est devenu, est entré dans les, est devenu fonctionnaire de l'État prussien. Il entamait une carrière comme ça de haut fonctionnaire. Et puis il s'est fait muter à Poznań, qui était alors la partie de la Pologne gouvernée par les Prusses, par la Prusse. Et là, alors qu'il a déjà femme et enfant, et déjà, il a déjà plus de 30 ans, il entre en contact avec des milieux piétistes et il se met à étudier la théologie et à devenir pasteur. Il devient pasteur dans deux villages dans les environs de Poznań. Et c'est un homme de revirement abrupt et de passion, en effet. C'est aussi quelque chose qui m'a fasciné, ce côté passionnel et radical dans ses rejets comme dans ses amours. Alors il adopte la foi chrétienne, enfin il était déjà protestant, mais il la rejette très violemment quelques années plus tard sous l'influence de Nietzsche. Il revient vers l'ouest de l'Allemagne et là il va, c'est dans le dernier tiers de sa vie qu'il va entrer en relation avec des intellectuels et des écrivains juifs, beaucoup de juifs, mais des non-juifs, dont Walter Benjamin, mais qu'il n'a connu que dans les dernières années de sa vie, mais Scholem et Buber et Hofmannsthal. Et il y a, au début de la Première Guerre mondiale, parce qu'après avoir été un protestant fervent, il est devenu un prussien fervent, jusqu'à être militariste, belliciste au début de la guerre, comme beaucoup. Et puis, dernier revirement, après la guerre, il faut dire après avoir perdu son fils aîné dans la première année de la guerre, il écrit un livre, c'est sa dernière publication, qui s'appelle en allemand Deutsche Bauhütte, et qui est une sorte d'appel non pas au peuple allemand, mais à chaque Allemand individuellement, pour que chacun se lève et écoute sa conscience et aille reconstruire les pays voisins détruits, la France et la Belgique. Et c'est publié en 1924. Et pour moi, c'est quelque chose d'inouï c'était quelque chose d'inouï que la lecture de ce livre, parce que il faut se représenter ce que c'était cette époque, l'indignation des Allemands face au traité de Versailles et aux demandes de réparation qui étaient faites, et la misère qui régnait. Et cet homme, non seulement, enfin, il ne demande pas qu'on paye quelque chose au-delà de ce que demande le traité de Versailles, mais complètement indépendamment de ça. Il n'en parle même pas, à peine, dans son livre. C'est vraiment une... Et alors, là, c'est un peu un écrit... comment on appelle ça en français, Gelegenheitsschrift, qui s'appuie sur un événement particulier, mais pour en faire la base d'une philosophie politique qui est basée sur l'individu, la conscience individuelle. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup impressionné, ce livre-là, et qui m'a tardivement réconcilié avec le personnage, parce que je n'ai pas... évidemment, ma relation à ce personnage change au fur et à mesure. Et vers la fin de sa vie, il a écrit vraiment quelque chose de très beau, que j'ai d'ailleurs réussi à faire rééditer en Allemagne récemment. Et ce livre est suivi de contributions, entre autres de Benjamin et de Buber. C'est quelque chose qui est tout à fait à l'opposé d'un autre livre dont vous avez tous connaissance et qui a été publié écrit à peu près à la même époque et qui va être publié à des millions d'exemplaires et qui est Mein Kampf. Et je me dis, je me disais, évidemment, en lisant cette dernière œuvre, que si les Allemands avaient lu ce livre-là plutôt que d'autres, on n'en serait pas là. Mais non, mais d'autant plus, la question s'est posée d'autant plus à moi de savoir comment avait été possible la suite, même dans cette famille qui est la mienne, c'est-à-dire comment un des fils de cet homme, malheureusement mon grand-père, a pu devenir nazi. Le fils d'un homme qui non seulement avait des amis juifs, mais des amitiés profondes, et qui avait non seulement des amis juifs, mais qui avait qui considérait les juifs comme les frères aînés des chrétiens, comme ses frères aînés. Et c'est une question à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse, mais j'essaie quand même de la creuser.
C'est surtout qu'en sang, vous découvrez, c'est vrai que vous découvrez des fragments de livres sans journal intime, des carnets d'adresses. Vous accédez aux archives dans ce travail, aux archives Walter Benjamin à Berlin, et vous déchiffrez ces notes lettre par lettre. Vraiment, on sent qu'il y a une affection qui s'installe. Cette affection que vous décrivez qui se termine sur une sorte de conciliation. Et en même temps, on sent aussi cette douleur, ce malaise qui s'installe face à cette idée de cause à effet, d'un chemin droit entre les écrits peut-être des années 20-30 et l'histoire familiale. Donc,
oui, on est toujours tenté de voir de voir une continuité ou de voir. On cherche inconsciemment, quand on fait ce genre de. Quand on entreprend ce genre d'approche, on cherche un lien de cause à effet et on cherche telle chose ayant conduit à telle autre chose, mais. J'en arrive finalement plutôt à la conclusion qu'en tout cas à l'intérieur d'une famille, cette famille qui est la mienne, il y a une rupture là, et là où mon grand arrière-grand-père en était à la fin de sa vie, ça n'aurait pas mené là où ça a mené collectivement. Mais
ouais. C'est là aussi que vous interrogez les concepts de l'histoire, Walter Benjamin. Et que vous venez à cette phrase que vous avez déjà mentionnée de Landauer, le passé est un chemin qui s'étend devant nous, ce concept de l'histoire. Ouais. Puis il y a aussi un autre élément qui est peut-être intéressant à mes yeux, c'est à vous approcher de Sanderling, vous vous arrêtez à différentes stations, à différents lieux. Vous êtes à Berlin, aux archives, vous êtes à Braunfels, à Hadamar, lieu de sa mort. Vous allez en Pologne aussi, où il fut pasteur. Donc ça, c'est le voyage que vous entreprenez. Et vous écrivez en Normandie, ce qui ajoute toute une autre dimension aussi à ce récit, le regard du côté de la France sur ce pays de vos ancêtres. Pour vous, cette écriture à partir de la France, le regard vers l'Allemagne, qu'est-ce qui change peut-être avec cette perception, cette écriture à partir d'un autre pays?
Mais il y a plusieurs choses qui ont rendu possible l'écriture de ce livre. Pour moi, c'est plusieurs formes de distance. Il y a d'abord, en effet, la distance géographique, le fait que je vis en France depuis 30 ans. Qu'est-ce que je voulais dire?
Le fait d'écrire en France, c'est ça?
Oui, le fait d'écrire en France, mais il y a aussi le fait de ce qu'on n'a pas encore mentionné, le fait que je suis fille naturelle et née hors mariage, et cette famille paternelle, du côté paternel, est une famille de bourgeoisie, grande bourgeoisie intellectuelle, où on n'a pas, je n'ai pas rencontré mes grands-parents. Ça ne, les enfants nés hors mariage n'étaient pas bien vus. Et donc, je n'aurais peut-être pas écrit ce livre, ou je l'aurais écrit différemment si j'avais été bercée sur les genoux de cet homme, si ça avait été mon gentil papy. Là, je parle de mon grand-père, et non pas de mon arrière-grand-père.
Mais ça aborde la question du rejet d'une vie en fonction de la valeur qu'on lui accorde aussi, qu'on retrouve à la fois dans cette approche de votre histoire familiale que l'histoire collective allemande. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'était quelque chose pour vous en écrivant que vous abordez des deux côtés, en fait, ce rejet de la valeur d'une vie, de la valeur à travers de votre relation vers le grand-père.
Alors, donc vous faites allusion à, je crois, à un passage dans le livre où mon arrière-grand-père, c'est quelque chose qu'il raconte dans son journal. Mon arrière-grand-père, donc pasteur en Pologne, enfin dans la partie prussienne de la polonaise de la Prusse, fait une visite avec d'autres pasteurs dans un asile d'aliénés, et très choqué devant la détresse de ces gens, devant leur misère, devant ce qu'ils découvrent, il se tourne vers le médecin qui l'accompagne et il lui pose la question: mais pourquoi n'empoisonnez-vous pas ces gens? Mais ça, c'était en 1904, hein, là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il nous est impossible, aujourd'hui, de lire une phrase comme ça, avec l'espèce d'innocence relative avec laquelle elle a été prononcée, l'innocence relative de ceux qui sont nés, qui sont morts en 1924 et qui n'ont donc pas su que ces gens allaient être empoisonnés peu de temps après. On ne peut plus jamais entendre cette phrase comme elle a été prononcée. On peut encore essayer, mais... Et dans ces moments-là, évidemment, on est très tenté de voir ce lien de cause à effet dont je parlais tout à l'heure, mais je crois qu'il faut s'en défendre. Ça demande... Cette phrase, il la prononce dans tout un contexte, dans une situation très particulière que je ne peux pas résumer ici, mais j'essaie dans le livre d'être plus nuancée, parce que en effet, sinon on aboutit à ah oui, bah il a dit ça, et je crois que ça, c'est trop facile.
C'est aussi quelque chose que vous avez déjà abordé avec cette dernière œuvre que vous faites republier là, justement de 1924, et la question de l'individu, sa conscience.
Mais je ne mets pas au même plan mon grand-père qui n'a jamais voulu me voir, parce que quand j'étais petite fille, il ne voulait pas m'empoisonner non plus, j'imagine. Ça n'allait pas jusque-là. Enfin, maintenant peut-être, s'il savait, mais c'est trop tard.
Mais ça explique peut-être aussi pourquoi vous constatez qu'aucun Russe ne représente le goulag, aucun Français la colonisation. Ils ont chacun leur histoire et s'adossent à elle comme à un pilier. Nous portons la nôtre comme un panneau sur la poitrine, le contraire d'un bouclier, une cible. Voyez-vous une ouverture ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Je pense notamment en fait à l'histoire, vraiment à la situation actuelle en Allemagne, ce pays qui... Selon le sociologue Harald Welzer, qui a écrit un article dans Der Spiegel en septembre 2015, qui donne une vision de l'Allemagne qui serait peut-être même en train de changer, en quelque sorte, dans le regard des autres pays aussi, en train de devenir même un pays peut-être de désir, d'accueil. Est-ce que vous voyez une...
C'est assez récent alors, hein, parce que... On est non seulement riche, mais on est aussi assez gentil récemment. Oui. mais je ne suis pas sûre que ce soit... Enfin, moi, je préfère rester en France.
Par contre, mais... ce qui lie les deux pays, on peut dire qu'il y a...
Oui. Par contre, excusez-moi, je voulais juste ajouter quand même que cette, dans cet accueil des réfugiés qui arrivent, là, des gens qui vont en masse dans les gares pour faire des comités d'accueil, etc., il y a quand même, là aussi, je vois quelque chose de ce passé allemand qui se prolonge, mais dans un bon sens. C'est-à-dire, on dirait que les gens veulent... racheter, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, c'est montrer une autre Allemagne. Mais en tout cas, c'est lié à ce passé national, pour moi, c'est clair.
Ce qui lie peut-être les deux pays, c'est l'accueil que votre livre a reçu. Il a été reçu, accueilli avec beaucoup d'enthousiasme à l'unanimité en France et en Allemagne, dans les deux pays. Et ce qui m'a plu personnellement, c'est ce mélange d'exigence et de vulnérabilité dans votre écriture.
Merci à vous.